Voilà, on veut rendre grâce ensemble. Père Céleste, merci d'avoir envoyé ta parole dans nos vies, à travers cette parole créatrice qu'est le Christ, ton Fils Jésus. Par elle, tu as créé les cieux et la terre, par elle, tu nous offres aussi un nouveau départ, un nouvel homme, une nouvelle femme, quelque chose de nouveau que tu construis jour après jour dans nos vies. Merci de cet édifice, de cette église que tu construis par le Saint-Esprit dans chacune de nos vies et ensemble. Merci parce que cette parole vivante te glorifie ce matin. Amen. Voilà, on a travaillé pendant quelques semaines sur... Voilà, je voulais un peu démystifier tout ce qu'on appelle le combat spirituel. C'était très à la mode dans les années 90-2000. J'ai dû acheter pratiquement une trentaine de bouquins que j'ai remis dans un carton parce que voilà, tous ces courants, voilà, assaillons les villes, enfin, plein de choses. Voilà, ces prières de combat, bien tout simplement, moi je les résume. Au fait de résister, de persévérer, de marcher avec Dieu, au jour le jour, avec la simplicité de notre vie. C'est Dieu qui est le héros, et si on le devient, ou si on l'est, voilà, c'est parce que c'est Dieu qui dirige nos vies, puis qui nous conduit dans toutes sortes de domaines. Parfois, il nous ouvre des domaines auxquels on n'avait pas pensé. Et ça m'a développé tout un thème. Voilà, le combat spirituel, c'est simplement marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière des vivants. Avec les vivants, nous sommes tous vivants au travers de Jésus ce matin. Et donc, nous marchons ensemble. Je crois que les trois paroles qui ont été données ce matin étaient voilà, pour regrouper ce que nous sommes chacun. Nous pouvons être ensemble. Quelque chose de nouveau, et nous sommes quelque chose de nouveau sur cette région depuis des années, et puis ça va continuer. On prend un texte ensemble, premier épître de Jean, les chapitres 1 et les versets 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, je vous annonce une bonne nouvelle ce matin encore. Dieu est lumière. Je ne sais pas si vous aimez la lumière. Moi, j'ai eu le privilège, moi, comme jardinier, de travailler dehors pendant 40 ans. Donc, j'ai travaillé à la lumière des vivants, à la lumière du soleil, avec aussi les intempéries. Alors, j'ai ma petite fille, quand je vais la voir, elle dit « Ah, papy, il n'aime pas la pluie, papy, il n'aime pas le vent. » Voilà, comme ça, vous saurez, hein, j'aime pas la pluie, j'aime pas le vent. Ce qui fait que novembre, décembre, janvier, moi, ce matin, il y a un peu de soleil, mais depuis un mois et demi, comme on dit, qu'est-ce qu'on déguste? Les tempêtes qui ont des noms sympathiques, tous les 3-4 jours. Voilà, par... Voilà, c'est aussi une image, une illustration de nos vies. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Là, il est question de ténèbres spirituelles. Je dis souvent dans mon enseignement, dès qu'on s'avance pour marcher de manière spirituelle, il n'y a pas de zone neutre. Le terrain est un peu miné. Et puis, bah, il faut apprendre à... En ce moment, on en a plein d'exemples. Hein. Ça fait 2 ans que, en Ukraine, les soldats en prennent. C'est assez horrible. On se retrouve à reculer de pratiquement un siècle. Mais la vie spirituelle avec Dieu, dès qu'on s'approche de Dieu, dès qu'on veut marcher dans la lumière, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des tensions, il y a des pièges. Et puis, eh bien, il faut apprendre à déjouer, à travailler, à avancer, à marcher avec toutes ces contraintes. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Marcher dans la lumière, c'est marcher dans la vérité. Je dis souvent, à moi, les ténèbres de ma vie, il m'a fallu des années pour m'en débarrasser. Je vous ai raconté un petit peu toutes ces expériences profondes, dont une qui m'a pris par surprise. Enfin, non, que je dis par surprise. En même temps, j'étais consentant, qui fait que j'ai choisi un chemin qui était pas le bon. Puis après, il faut pouvoir faire marche arrière et puis remettre sa vie, remettre la colonne de la vérité en bon ordre, avec le haut, le bas, et puis qu'elle soutienne l'édifice de la bonne manière. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes en communion avec le Père, le Fils et l'Esprit. Et nous sommes en communion les uns avec les autres. Quand notre amour pour Dieu, notre amour pour les frères et sœurs se refroidit, il y a déjà un petit peu moins de lumière. Est-ce qu'il y a dans nos vies le désir profond, sincère, vrai, de marcher dans la lumière des vivants ? On peut avoir soif d'eau, de vérité, on peut avoir soif de lumière. On en a besoin, c'est de la vitamine. Régulièrement, tous les ans, le médecin me prescrit de la vitamine D. C'est la vitamine qu'on reçoit avec le soleil. Je travaille moins dehors et puis arrive à un certain âge, il y a des vitamines dont on a besoin. Le soleil, c'est plein de vitamines. La parole de Dieu, c'est plein de vitamines. C'est plein de vérité. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Communion, c'est un mot, ça peut être aussi un mot technique, théologique. Dans le grec, c'est le mot koinonia, c'est la koinonia de Dieu, la communion de Dieu. C'est quelque chose de complexe. Plein d'aspects dans la communion avec Dieu. J'aimerais relire un texte avec vous que tout le monde connaît, Acte 2, les versets 41 à 43. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles parmi les apôtres, au milieu des apôtres. Il persévérait. Persévérer, c'est déjà être dans un combat. Parce que persévérer, ça demande des choix, de la décision, un petit peu de caractère. Quand je suis venu au Seigneur à 22 ans, j'avais l'impression d'être, je vais utiliser un mot, hein, destroy. Ça allait dans tous les sens. Il n'y a rien qui était structuré. C'était tout et n'importe quoi. Tout était à remonter. Persévérer. Et le jour de ma conversion, allez, je vous raconte juste une expérience, je ne la raconte pas qu'une fois. Le jour où je me suis converti, j'ai brûlé les livres occultes que j'avais emportés avec moi. Ma mère m'a donné une petite Bible, vous savez, en cuir avec une fermeture éclair. Et donc le soir, je commençais, je ne sais plus, à lire, je ne sais plus si c'était dans Ésaïe ou dans le Nouveau Testament. De toute façon, il n'y avait qu'une phrase qui se surimprimait et c'était marqué « Sois simple ». C'est avec tous les trucs que j'avais dans la tête. C'était compliqué de s'en débarrasser. Beaucoup de ténèbres, le Seigneur dit « Sois simple ». Et pendant que je tenais ma Bible, il y a deux mains invisibles qui tiraient la Bible vers le haut. Des expériences spirituelles, parce que l'ennemi avait une main sur ma vie. Alors tout de suite, on dit, ah ouais, c'est quoi la vie spirituelle? C'est quoi marcher dans la lumière? C'est quoi vivre avec Dieu? Et puis pendant que ma Bible, il y avait de la résistance, dans mon cœur, j'ai verrouillé, j'ai dit, je choisis de lire la Bible jusqu'à la fin de mes jours. Et je refuse tout ce qui vient de l'ennemi. Waouh! Ça fait 49 ans que je lis l'Écriture. Je n'ai plus jamais eu de souci avec ça. Le jeune homme qui m'enseignait dans les choses occultes, moi j'ai vécu des premières semaines spirituelles, Indiana Jones, avec plein d'expériences plus folles les unes que les autres. Et puis, voilà, on a vécu plein de combats spirituels ensemble. On a marché ensemble. On a pris notre baptême ensemble, septembre 1974. Un soir, je lui avais dit, je ne refuse tout ce qui est occulte et tout ce qui n'est pas lié au monde de l'Écriture et de la parole de Dieu. Moi, j'ai survécu. Et puis lui, quand il s'agit de rechercher Dieu, d'être rempli de l'Esprit et puis de vivre avec ces langues nouvelles que Dieu donne, il a mélangé parce qu'il avait pratiqué l'écriture automatique, enfin plein de trucs occultes pendant des années. Et puis à un moment donné, tout s'est mélangé. Je ne l'ai plus jamais revu. Choisir de marcher dans la lumière des vivants, faire des choix profonds, définitifs. Et puis là, j'ai découvert, ah ouais, avec Jésus, je peux avoir un peu de caractère. Et puis je me suis dit, je ne vais pas m'en priver. Donc j'avais toujours considéré que j'étais petit, faible, machin. Ça m'a dit, non, et à un moment donné, il faut que tu changes ton état d'esprit, ta mentalité. Et il faut que tu rentres dans quelque chose de nouveau. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Alléluia, dans la koinonia de Dieu, persévérer dans la fraction du pain. Ces cinq choses qui sont simples. Hein. Persévérer dans l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Quatre choses pas forcément compliquées, mais qui peuvent être l'objet d'un combat par moment dans notre vie. La couleur fraternelle, moi je suis très bien, tout seul chez moi. Je peux prier tout seul, moi je peux très bien me débrouiller tout seul. Je crois qu'on a eu une belle parole ce matin, hein, qui disait, voilà, peut-être qu'il faut que tu apprennes à vivre en église. On a eu trois paroles sur l'église ce matin. Trois paroles sur l'enseignement des apôtres, sur la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières, Jean-Marc vient d'en parler. C'est un partage fraternel. On dit la sororité aussi maintenant, hein, quand c'est dans le domaine des sœurs, des femmes. Communion entre nous dans l'Église. Persévérance, ils acceptèrent sa parole. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta. Si moi j'augmente, tout augmente. Alléluia. Je dis souvent, pour responsable d'action, comment est-ce qu'on crée une église? C'est pas compliqué, on se réunit à quelques personnes. Et puis, si on persévère dans ce qu'on a reçu, le Seigneur en ajoute un, deux, trois. Il y a 50 ans, on a démarré à 7 personnes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est une église aujourd'hui, une méga church, puisque c'est la mode aujourd'hui, les jeunes pasteurs, ouais. Tel pasteur américain, en quelques années, 3000, c'est écrit, hein, le nombre de disciples augmente à 3000. Bon. Même si c'est plus modeste. Alors parfois je me dis, est-ce que je devrais faire plus? Est-ce que j'aurais pu faire plus? Est-ce que j'ai pas fait bien? Est-ce que j'ai... Et puis après j'ai eu, Seigneur, voilà, comment dis-tu, le sais. Et puis voilà, c'est toi qui nous fais grandir ensemble. Épître de Paul aux Galates. Galates chapitre 2. Et le verset 8 et 9. Celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait aussi de moi l'apôtre des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas, Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens, eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Paul a validé son service, son ministère, auprès des trois apôtres à Jérusalem, qui étaient des colonnes. Là aussi, hein, le texte grec dit ceux qui étaient les droites. Être une colonne dans l'Église de Dieu, c'est d'être une droite. Le Christ Jésus est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Un jour, il va se lever et puis il va renouveler le monde. Ceux qui sont des colonnes me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. On a entendu trois paroles ce matin. Est-ce qu'on peut se donner la main d'association, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières? C'est beau, hein, de se donner la main d'association. C'est une alliance qui nous lie. Elle n'est pas neutre. Avec Jean-Marc, on se donne la main d'association depuis un peu plus de 40 ans, même si à un moment donné, c'est moi qui ai lâché la main. Il y a quelque chose d'unique et d'extraordinaire de recevoir de Dieu, d'entrer dans des alliances et de pouvoir se donner la main d'association. C'est quelque chose de fort, hein, une poignée de main. Si on a de la force. J'avais un oncle qui était ébéniste, il avait les doigts à l'intérieur qui ne fonctionnaient plus. Il me serrait la main avec ses deux doigts-là. Il m'écrasait la main. Il arrivait à écraser un morceau de sucre blanc, rien qu'en faisant ça, tellement il avait de la force. La main d'association dans notre vie, c'est quelque chose de fort. Une main droite. Bon, si vous êtes gaucher, ça marche aussi. Je dis toujours, on ne fait pas de... Quelle que soit notre dextérité. Mais... C'est beau. Communion fraternelle. Ensemble, se donner la main d'association. C'est recevoir. Pour moi, c'est vivre quelque chose de plus. Les rencontres, les alliances que l'on fait dans le milieu chrétien. Il y a 2 mois, j'ai été voir Albert Leclerc, pasteur à la retraite à Bruxelles. Pareil, on se connaît depuis 1976. On a fait nos 3 ans de collège comme ça. C'est des amitiés, c'est des amours. En tout bien, tout honneur, mais des amours fraternels, fortes, puissantes. Toute l'équipe de garçons qui étions ensemble, qui prions ensemble, on buvait le café à 10 heures avec un carré de chocolat. pratiquement tous ont été dans le service de Dieu. Et c'est des frères aujourd'hui qui ont rempli leur vie de bonheur, de joie, ayant connu la grâce, reconnaître chez l'autre la grâce de Dieu et pouvoir faire alliance. Nommer dans l'Église des services, des ministères, c'est faire alliance. C'est partager ensemble la droite de Dieu, la main d'association. C'est une chose tellement belle, la koinonia de Dieu, la communion fraternelle, spirituelle de Dieu. Dieu est lumière. Si nous voulons être en communion avec lui, nous marchons dans la lumière. Plusieurs sortes de lumière. Lumière naturelle, physique, le soleil, la lune, les astres. La lumière artificielle. Les lampes diverses. C'est de la lumière. Depuis l'infrarouge, l'ultraviolet, tout ça, c'est de l'énergie, c'est des fréquences. La lumière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lumière spirituelle au travers de l'écriture, la parole de Dieu, la révélation, la sagesse, le discernement. Vivre aussi avec cette révélation de Dieu, ces lumières spirituelles dont on a besoin. On verra qu'elle a plusieurs couleurs. Lumière surnaturelle, une autre dimension de foi, de connaissance, de discernement qui rentre dans ma vie. Connaître le Père, le Fils, par l'Esprit Saint, par la parole de Dieu révélée. Rajouter une dimension de lumière dans notre vie. Souvent, quand on... c'est pas comment faire des choses. Voilà, Seigneur, j'ai besoin de ta lumière. Soit on reçoit une parole d'inspiration, une parole de l'écriture, une parole d'encouragement diverse, un signe, voilà, dans notre vie courante. Souvent, moi, Dieu nous parle de toutes sortes de manières. Souvent, quand je pense quelque chose de pas très bien, c'est comme une petite douleur qui se réveille au pied, au genou, à la main, dans la tête. Dire, fais attention, ce que tu penses, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc, Seigneur, je dois changer ce type de pensée. Chacun vit Après, c'est bien de témoigner les uns les autres de tout ce langage que Dieu utilise pour nous parler à chacun personnellement. Sept couleurs. Blanc, le blanc de la sainteté, vêtement de justice. Le rouge de la grâce, le sang de Christ. Le bleu de la vérité, du ciel, du royaume de Dieu. Le vert, tout ce qui est la vie, la nature. Le jaune, la sagesse de Dieu. L'orange, marcher sur le chemin. Le violet, tout ce qui concerne notre être profond. J'aime les couleurs. Alors, j'ai fait beaucoup de formations comme jardinier pour concevoir des massifs de fleurs. Des formations où on va voir les peintures des peintres, des impressionnistes, et puis faire ces trois niveaux. Un premier niveau avec des plantes basses, un deuxième niveau avec des plantes moyennes, un troisième niveau avec des grandes plantes, et on choisit les graphismes, les couleurs. Waouh ! Dans ma Bible, il y a plein de couleurs, il y en a plus que sept. Jean-Marie, c'est un arc-en-ciel, hein. J'aime les couleurs de la vie. Le bleu du ciel, le vert de la nature, le marron des arbres, le gris des nuages, etc. Chacun peut méditer sur ce que lui apportent les couleurs. J'avais été marqué par un jeune homme anglais qui est autiste Asperger, Il a deux qualités. Il voit les chiffres en couleurs. Chaque chiffre de 1 à 10 lui évoque une couleur. Et il est capable, pendant 24 heures, de réciter toutes les décimales de pi 3,14, 3,14, 116, etc. Mais lui, il peut continuer à l'infini. Et chaque lettre, chaque chiffre est une couleur. C'est une capacité de son cerveau qui est unique. Beaucoup de gens qui ont ces capacités-là, même s'ils ont plus de difficultés sur le plan social, ils ont quelque chose dans leur intelligence, dans leur cerveau, dans leur esprit qui fonctionne différemment. Pouvoir voir le monde en couleur. Du coup, j'ai perdu ma feuille. Un arc-en-ciel. Trois couleurs de base. Rouge, bleu, vert. Avec ces trois couleurs-là, on peut fabriquer toutes les autres en les mélangeant. Bon, parfois, ça peut aussi donner du gris. Des choses indifférenciées. Le blanc de la sainteté, les vêtements de la justice. Le noir du péché de la justice. Catherine, quand elle faisait le catéchisme aux enfants, il y avait un petit livret avec les couleurs. C'est aussi une manière de transmettre l'évangile aux enfants. Cette couleur dans notre vie avec Dieu. Apocalypse, chapitre 1, le verset 4. On va lire là quelques textes qui sortent un petit peu de... qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Cette église, je peux imaginer que chacune a sa couleur. Je ne sais pas quelle est la couleur de l'église d'Akiva. Nous avons une couleur particulière par notre accueil, par notre manière d'être, par notre manière de vivre, l'endroit où on est, le passé que l'on a. Chaque église reçoit de Dieu quelque chose qui lui est propre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Il vient bientôt, vient Seigneur Jésus. De la part de cet esprit. On pourrait penser aussi que chacune des couleurs de la lumière, de cette énergie de Dieu, est aussi une couleur de l'esprit. Ésaïe, chapitre 11. Il parlait des sept esprits. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel. Cette manière d'être, cette couleur de l'Esprit Saint, chacune d'elles peut nous parler, chacune d'elles peut nous apporter quelque chose de nouveau. Je vous redis, esprit de l'Éternel, esprit de sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, crainte de l'Éternel. Cette manière de dialoguer, d'entrer en dialogue avec l'Esprit de Dieu, avec celui qui est, qui était et qui vient. On repart dans l'Apocalypse. Au chapitre 5, il y a une louange septuple, c'est-à-dire cette expression, voilà, qui nous rappelle qui est Dieu. Il est question de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards. Leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire est la louange. Cette expression, j'aime proclamer, c'est cette expression. C'est cette expression qui nous dit cette gloire de Dieu. Il disait d'une voix forte. Voilà, parfois, comme on dit, c'est bien de se secouer un peu et puis de oser faire ou dire des choses qu'autrement, peut-être, on ne ferait pas. Il disait d'une voix forte à l'agneau qui a été immolé, il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Cette couleur de Dieu qui multiforme. Ce sont des images. Mais chacune peut nous aider à entrer dans cette compréhension plus profonde, plus grande de ce qu'est Dieu. Imaginez si on disait ça à un être humain. Et pourtant, il y en a qui attendent, les hommes, ce type d'honneur. En ce moment, sur la Terre, il y en a quelques-uns qui pensent qu'ils sont dignes de recevoir tous ces honneurs de la part des hommes. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé. Le Christ Jésus en croix, on va partager le pain et le vin tout à l'heure, pour voir dire à celui qui a donné sa vie pour nous, tu es digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange de ma part, de ma bouche, de ma langue, de mes lèvres, de mon cœur, de mon intelligence, de mon esprit. On a fait un chant tout à l'heure, hein, de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu lui rendras tout ce qui lui est dû, la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. On termine pour ce matin dans les actes, acte 26, prédication de Paul, acte 26, 16, 18, verset 15. Je répondis, qui es-tu, Seigneur ? Le Seigneur dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues, de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dieu est apparu à Paul d'une manière tellement extraordinaire. C'était un persécuteur de chrétiens. Si je veux aller plus loin, je vais dire ça. C'était un tueur. Pour la bonne cause, il était sûr d'être dans son bon droit. Et puis en allant pour lui rendre la justice et mettre à mort des hommes, des femmes qui croyaient en Jésus, son cheval s'est cabré, il a vu une grande lumière. Il a été jeté à terre. Puis elle a dit, mais t'es qui toi ? C'est qui ? Je suis Jésus que tu persécutes. Et maintenant, je te secoue un peu. Paul a été aveugle pendant 3 jours. Un chrétien un peu anonyme, hein. Ananias a dû aller le voir et puis lui dire, voilà, le Seigneur m'a dit de venir et de prier pour toi pour que les écailles tombent de tes yeux. J'ai un petit livre qui m'accompagne depuis 49 ans. Il n'est plus édité. Hein. Les yeux ouverts sur les ruses de Satan. Tout ce qui concerne le monde occulte, tout est détaillé. Je l'ai lu quand j'étais dans ma première année de vie chrétienne. J'ai vite compris ce dont il fallait se débarrasser. Et pourquoi, comment le Seigneur nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière, pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan et à Dieu, qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Je nous souhaite d'ouvrir les yeux, de continuer d'ouvrir les yeux. Je disais, en même temps, une vie spirituelle puissante, profonde, en expansion, ça veut dire aussi être confronté avec des choses qu'on comprend, d'autres qu'on ne comprend pas toujours. La compréhension ne vient qu'après, mais on est en opposition. L'ennemi va tout essayer pour nous faire un croche-patte. Ces ruses sont nombreuses, voilà, donc il faut apprendre un petit peu à les comprendre, à les discerner, et puis à mettre de la distance, ne pas en avoir peur. Si l'ennemi est puissant, le Christ Jésus est tout puissant. Je vous laisse avec ces réflexions et on se retrouve bientôt.